France Musique. Tour de chant, Martin Pennet.
Aujourd'hui, le compositeur Joseph Kosma, première partie. Au terme d'un parcours intimement lié à l'histoire européenne du XXe siècle, le compositeur Joseph Kosma nous a quittés il y a 50 ans, en août 1969, à l'âge de 63 ans. Ses musiques de films et ses chansons, à commencer par Les Feuilles mortes, font partie de notre inconscient collectif. Même si de nos jours, la renommée de Joseph Kosma, avec un K, est originaire de Hongrie, est quelque peu occultée par celle d'un compositeur contemporain, Vladimir Kosma, avec un C, et d'origine roumaine, connu pour ses nombreuses musiques de films populaires. Le perfectionniste Joseph Kosma était plus occupé par son inspiration que par un souci d'exposition, ce qui explique le peu d'archives parlées conservées par l'INA de cet homme discret. Il a pourtant eu une production riche et éclectique, où les musiques de films et la chanson occupent la plus grande place. C'est bien sûr sa collaboration durable avec Jacques Prévert qui a le plus marqué les esprits, comme cet insolite inventaire, enregistré en septembre 1949 par les frères Jacques et qui leur a valu l'année suivante un grand prix du disque. En voici leur nouvel enregistrement de 1957.
Trois fleurs, un oiseau, 22 fossoyeurs, un amour,
le raton laveur,
une madame, un tel, un citron, un pain, un grand rayon de soleil,
une lame de fond, un pantalon,
une porte avec son paillasson,
un monsieur décoré de la Légion d'honneur,
le raton laveur,
un sculpteur qui sculpte les Napoléons, la fleur qu'on a. Appel au souci,
deux amoureux sur un grand lit,
un carnaval de Nice,
une chaise,
trois dindons, un ecclésiastique,
un furoncle, une guêpe, un rein flottant,
une douzaine d'huîtres,
une écurie de course,
un fils indigne,
le père dominicain,
trois sauterelles, un strapontin, une fille de joie,
trois ou quatre oncles cypriens,
le raton laveur.
De papa gâteau, trois rossignols de père, de sabots, cinq dentistes,
un homme du monde, une femme du monde,
un gouverneur de cabinet,
deux petits Suisses,
un grand pardon,
une vache à sa bavarde, plate de bon sang, un monsieur bien mis,
un cerf-volant, un régime de bananes, une fourmi, une expédition coloniale,
un cordon sanitaire, trois cordons ombilicaux, un chien du commissaire, un jour de gloire,
ma bande à gerbière, un vendredi soir,
une chaisière,
un œuf de poule.
Le grand mérite que unanimement on reconnaît à vous et à Jacques Prévert, c'est d'avoir fait sortir la chanson en France de l'ornière dans laquelle elle était engagée. Vous êtes sorti des poncifs et vous avez fait des chansons très très littéraires, mais au bon sens du mot, c'est-à-dire que amour a cessé de rimer avec toujours, clair de lune avec fortune, et vous avez trouvé une inspiration tout à fait particulière, une grande tendresse. Quels sont les maîtres que vous reconnaissez?
J'aime beaucoup Satie. Comme vous remarquez peut-être en musique, j'ai beaucoup étudié et j'aime beaucoup. Je suivis ses conseils, par exemple, qui, pour écrire la musique populaire qui est écrite pour tout le monde et qui fait plaisir à tout le monde. Enfin, on essaie de suivre ce principe-là, qui est différent de l'autre musique, musique abstraite. Et aussi dans la musique symphonique, j'essaye ce style.
Oui. Et quels sont vos grands aînés parmi les classiques, parmi les anciens?
Oh, moi, j'aime beaucoup Schumann. J'aime énormément Debussy, que j'ai appris, par exemple, l'orchestration. J'ai appris surtout des partitions de Ravel, Debussy, l'école française.
Dans cet entretien de février 1950 avec Jean Lesay, Joseph Cosma rend hommage à la musique française, celle du pays qui vient de lui accorder la nationalité en 1948. Cette reconnaissance est intervenue après 15 ans d'un séjour mouvementé, durant lequel il a déjà livré de magnifiques pages, comme cette musique pour le film Les Portes de la Nuit, en 1946, ici enregistrée par l'orchestre du Capitole de Toulouse, dirigé par Michel Plasson. À la fin de sa vie, dans les années 60, que Joseph Cosma se livrera davantage sur sa jeunesse hongroise. Né à Budapest en octobre 1905, dans une famille juive, il a vécu une enfance pauvre mais joyeuse, déjà marquée par la musique, comme l'expliquera en 1973 Marie Merlin, sa dernière compagne, au micro de Bernard Latour sur France Culture, 4 ans après la disparition du compositeur.
Marie Cosma, il serait bon tout d'abord que vous retraciez pour nous la jeunesse de Cosma à Budapest.
La jeunesse de Cosma à Budapest, ce que j'en sais, c'est ce qu'il m'en a raconté. Il avait envie de faire de la musique et dans sa famille, tout le monde était contre, sauf une de ses grands-mères qui avait été élève de Liszt. Et puis finalement, la vocation a vaincu toutes les résistances et il a fait de la musique. Et puis, quand il est sorti du conservatoire, il s'est intéressé au mouvement d'avant-garde. Jeune étudiant en musique, il était avec ses camarades du conservatoire un fervent défenseur de Bartok, qui n'était pas toujours défendu comme il aurait convenu par les auditeurs hongrois, qui étaient à l'époque la bourgeoisie hongroise, et pour lesquels Bartok faisait figure d'un compositeur d'avant-garde.
Oui, il faut préciser que nous étions alors vers les années 20-25 à peu près.
Oui, environ.
Un extrait du ballet Le Mandarin Merveilleux, enregistré par l'Orchestre Philharmonique de New York sous la direction de Pierre Boulez. Il s'agit d'une des œuvres de Béla Bartok qui a beaucoup marqué le jeune Joseph Cosma durant sa jeunesse passée à Budapest. Familier du piano depuis l'âge de 5 ans, il invente des musiques pour les spectacles de son lycée. En 1917, il compose même un opéra pacifiste intitulé « Noël au front » qu'il présente avec une troupe d'amis. Au sortir de la guerre, la Hongrie est un pays aux frontières très réduites qui connaît plusieurs crises de régime, puis s'enfonce à partir de 1921 dans la dictature de Miklós Horthy, lequel réveille un certain antisémitisme. Refusé à l'université, Joseph parvient à entrer au conservatoire de Budapest dans des classes de composition et de piano. Il approche alors les compositeurs Béla Bartók et Zoltán Kodály, qui ont su intégrer le folklore hongrois dans leurs œuvres novatrices. Il découvre également la musique atonale du viennois Arnold Schönberg. Passionné de cinéma, Joseph travaille dans des salles de quartier où il improvise au piano. Il s'occupe parallèlement d'un petit théâtre d'avant-garde, le Zigzag, comme il l'expliquera en avril 1960 à Max Favalelli.
Est-ce que vous avez été mêlé à cette vie intellectuelle un peu turbulente qui est celle des étudiants, généralement?
Beaucoup, beaucoup. D'un côté, j'étais un fervent du poète Adi, qui adorait la France et qui a consacré une grande partie de sa poésie aussi à Paris, oui, où il a vécu. Et il faut dire que ses poèmes excellents ont marqué beaucoup la jeunesse. Et les Hongrois rêvent de Paris comme on rêve de pays de cocagne, comme un rêve, quelquefois impossible, mais enfin on rêve toujours.
C'est ça. Et le jeune garçon que vous étiez avait ce rêve-là.
Il y avait aussi une revue qui s'appelait Occident, qui était consacrée à la littérature française. Nous étions nourris des traductions des grands poètes et des grands écrivains français.
Et au point de vue théâtre?
Au point de vue théâtre, j'ai participé fortement à un théâtre,
une entreprise d'avant-garde.
Une entreprise d'avant-garde où on a donné tout ce qu'il y était dadaïste, futuriste. Nous avons joué la musique de Schönberg, Webern à l'époque. Et nous avons fait beaucoup, beaucoup de scandales, évidemment, avec les danses des machines. Enfin, j'ai composé à tour de bras de la musique la plus moderne.
De vous faire un signe, prenez six roses balais, prenez-moi ça, et que le parquet brille, je vous en prie.
De l'opéra bouffe Un amour électronique, créé en 1962 par les Jeunesses musicales de France. Dans cette œuvre, à laquelle il a travaillé durant plusieurs années, Joseph Kosma renoue avec l'époque de sa fougueuse jeunesse, passée à Budapest dans les années 20. Après 4 ans de conservatoire, dont il sort avec un prix de composition, Joseph est nommé assistant répétiteur à l'opéra de Budapest, poste qu'il n'occupera pas bien longtemps, puisqu'en 1929, à l'âge de 23 ans, une nouvelle aventure démarre, comme l'explique Marie Merlin.
Après sa sortie du conservatoire et après avoir défendu donc le mouvement de la musique créatrice d'avant-garde hongroise, qu'a fait Kosma?
Eh bien, il a d'abord été quelque temps stagiaire à l'opéra. On nommait comme ça les jeunes garçons, les musiciens qui sortaient du conservatoire pour qu'ils apprennent leur métier. Et il a eu en même temps une bourse qui équivaut à peu près à notre prix de Rome pour aller à l'Institut hongrois de Berlin. Et là, il m'a avoué souvent qu'il avait été très mauvais étudiant. Il faisait beaucoup l'école buissonnière. Cet institut hongrois, je crois qu'on ne l'y a pas vu très souvent. Il était la plupart du temps avec le groupe de théâtre de Brecht et de la femme de Brecht, Hélène Weigl, et il participait, il accompagnait au piano les représentations théâtrales de Brecht dans les banlieues de Berlin. Il faut penser qu'à l'époque, Brecht n'était pas un monsieur célèbre comme il l'est devenu, c'était une troupe théâtrale, si on peut dire d'avant-garde, enfin, qui allait donner des représentations dans les banlieues, et Cosma se souvenait de représentations interrompues par l'entrée des choupeaux de Hitler et qui tiraient des coups de revolver en l'air. Et Weigl, qui était une femme vraiment admirable, se mettant devant et faisant fuir d'abord ceux qui avaient des papiers pas très en règle, enfin ceux qu'il fallait surtout pas que la police de Hitler arrête. Et puis, le climat devenant vraiment insoutenable à Berlin, Cosma n'ayant pas envie de retourner non plus en Hongrie, où le climat politique ne lui paraissait pas plus souhaitable, et Cosma est arrivé à Paris, ne sachant pas un mot de français, mais rêvant de ce Paris dont il rêvait depuis qu'ils étaient tout jeunes.
Tour de chant, Martin Pennet, France Musique.
En 1930, les principaux musiciens des pièces de Bertolt Brecht sont Kurt Weill, dont nous entendons un extrait du célèbre opéra de Katsu, et Hans Eisler. Berlin est au tout début des années 30 une des plus grandes capitales musicales d'Europe, une ville bouillonnante de créations culturelles, une mine d'idées et d'expériences où le jeune Cosma multiplie les rencontres. Mais Berlin est aussi, sur fond de crise économique extrême, un terrain d'affrontement politique, opposant notamment les communistes qui cherchent à unir les prolétaires plus ou moins affamés et les nazis qui veulent prendre le pouvoir. Une période à la fois périlleuse et exaltante que Cosma a accepté d'évoquer avec Pierre Dumayet au soir de sa vie en 1968.
Vous avez fait une rencontre très importante dans votre vie, celle de Bertolt Brecht. Est-ce qu'il n'a pas coloré votre vocation de musicien ?
Oui. À Berlin, j'ai fait la connaissance de Brecht et je crois qu'il m'a influencé définitivement pour toute la vie. Bon, vous vous imaginez une personnalité pareille. Et puis, Hans Eisler, le collaborateur, c'était à peu près le cercle où j'étais fourré tout le temps. Et c'était pas le Brecht qu'on connaît aujourd'hui, le Brecht célèbre. Mais le jeune Brecht, inconnu au monde, connu à Berlin. Et puis, ce qui m'a inculqué, et je ne peux pas oublier, avec d'ailleurs Hans Eisler, avec qui j'ai travaillé la musique aussi, que au bon milieu de Berlin 1930, où la nuit commençait à engloutir l'Allemagne avec des chemises brunes, avec des nazis, j'étais en plein Berlin. On a entendu la mitrailleuse dans la rue et on a vu les chemises brunes dans la rue. On a vu tuer les gens. Dans cette atmosphère, Brecht a prêché que musicien ne peut pas avoir autre vocation qu'essayer ce qu'il peut faire pour convaincre les gens qu'il fallait penser à la guerre, qu'il fallait au nom empêcher, c'est trop dire, mais réfléchir. Eh bien, ça m'a semblé tellement logique, tellement naturel, que j'ai écouté aussi Eisler qui a parlé contre la symphonie, que la symphonie et la fugue, c'est pour le moment, c'est bon pour le tiroir. Il faut écrire des cantates, il faut donner à la parole, au contenu, sa place claire, simple, que tout le monde entend, tout le monde comprend. On a autre chose à faire que la musique pure. Alors, j'ai cherché à faire ce que je peux, sans illusion, mais quand même à écrire quelque chose qui, au moins, peut-être, ça touchera deux ou trois gens qui réfléchiront.
Tu es un ouvrier, oui. Viens avec nous, ami, n'aie pas peur. Nous allons vers la grande union de tous les vrais travailleurs. Marchons au pas, marchons au pas, camarades vers notre front. Range-toi dans le fond de tous les ouvriers, avec tous les frères étrangers.
Und weil der Mensch ein Mensch ist, drum braucht auch noch Kleider und Schuh. Es macht in eurem Geschwätz nicht warm und auch kein Trommeln dazu.
Drum links zwei, drei, drum links zwei, drei, wo dein Platz gelassen ist. Reih dich ein in die Arbeiter-Einheitsfront, weil du auch ein Arbeiter bist.
Und weil der Mensch ein Mensch ist, drum hat er Stiefel im Gesicht nicht gern. Er will unter sich keinen Sklaven sehen und über sich keinen Herrn.
Drum links zwei, drei, drum links zwei, drei, wo dein Platz Genosse ist. Reih dich ein in die Arbeiter-Einheitsfront, weil du auch ein Arbeiter bist.
Und weil der Prolet ein Prolet ist, drum wird ihn kein anderer befreien. Es kann die Befreiung der Arbeiter nur das Werk der Arbeiter sein.
Drum links zwei, drei, drum links zwei, drei, wo dein Platz Genosser ist. Reih dich ein in die Arbeiter-Einheitsfront, weil du auch ein Arbeiter bist.
Und weil der Mensch ein Mensch ist, drum braucht er was zum Essen, bitte sehr.
Es macht ihn ein Geschwätz nicht satt, das schafft kein Essen mehr. Drum links zwei, drei, drum links zwei, drei, wo dein Platz gelassen ist. Reih dich ein in die Arbeiter-Einheitsfront, weil du auch ein Arbeiter bist.
Les chanteurs alsaciens Jean-Marie Hummel et Liselotte Ham interprétaient en 2001 Einheitsfrontlied, ou Chant du Front Uni, l'une des plus célèbres chansons du mouvement ouvrier allemand. Écrite en 1934 par Bertolt Brecht et mise en musique par Hans Eisler, elle a été créée à Strasbourg en juin 1935 lors des premières Olympiades de musique ouvrière d'Europe par un chœur de 3000 travailleurs. C'était deux ans après l'arrivée d'Hitler au pouvoir en Allemagne et le moment où Joseph Kosma s'est résolu à quitter Berlin avec sa nouvelle compagne Lily. Arrivé à Paris en 1933, ils connaissent des temps plus difficiles qu'ils ne l'imaginaient. Malgré ses lettres de recommandation, Kosma reçoit un accueil assez froid du milieu musical qui ne lui laisse guère de perspective de faire carrière. Lily donne des leçons de piano et Joseph travaille dans une école de gymnastique où il accompagne au piano les mouvements rythmiques. Parallèlement, il tente sa chance du côté du cinéma et commence à hanter les studios. C'est là que, début 1935, il fait la connaissance d'un homme un peu étrange, bavard, qui attend un rendez-vous. Il se nomme Jacques Prévert. Lui aussi veut faire de l'art populaire et engagé. Kosma lui déclare qu'il voudrait composer des chansons. Prévert note son adresse et deux ou trois mois plus tard lui envoie deux textes, dont « À la belle étoile ». Jacques Prévert écrit des scénarios et son frère Pierre est réalisateur. Jacques a donc des relations dans le monde du cinéma et c'est par son intermédiaire que Kosma va rencontrer Jean Renoir. Durant l'automne 1935, ce dernier tourne « Le crime de Monsieur Lange » qui deviendra un film phare du Front populaire. La musique a été composée par Jean Vienner, mais il manque une chanson. Proposée par Prévert, « À la belle étoile » plaît à Renoir, qui l'intègre dans son film, où elle est interprétée par Florel. En voici une rare version captée par la radio en 1952.
Je vais donc vous chanter « La belle étoile ». Parole de Jacques Prévert, musique de Kosma.
Boulevard de la Chapelle, où passe le métro aérien, il y a des filles très belles et beaucoup de vauriens. Les clochards affamés s'endorment sur les bancs et de vieilles poupées font encore le tapin à 65 ans. Au jour, le jour, à la nuit, à la belle étoile, c'est comme ça que je vis. Où est-elle l'étoile? je ne l'ai jamais vue. Elle doit être trop belle pour le premier venu. Au jour, le jour, à la nuit, à la belle étoile, c'est comme ça que je vis. C'est une drôle d'étoile, c'est une triste vie.
Prévert est à cette époque à la tête du groupe Octobre, fondé en 1932, qui fait partie de la Fédération du Théâtre Ouvrier de France. Si le jeune Cosma a retenu les leçons de Hans Eisler, lui aussi exilé à Paris en 1933, nul doute que Jacques Prévert a subi l'influence du théâtre engagé de Bertolt Brecht. Eisler fréquente d'ailleurs le groupe Octobre et, avant son départ pour les États-Unis, met en musique deux textes de Prévert. Afin de diffuser auprès du peuple les idées marxistes, ce dernier écrit pour le groupe Octobre de courtes pièces avec des dialogues d'une grande efficacité ou des chœurs. Ses œuvres sont interprétées dans les meetings, dans les rues et dans les usines en grève. Adepte de l'agitprop, Prévert milite pour l'émergence d'un théâtre du peuple face au théâtre bourgeois. Il écrit contre l'ordre établi, caricature les politiciens, les gros industriels, la bourgeoisie et valorise bien sûr les ouvriers. À partir de 1935, Joseph Cosma compose des musiques pour le groupe Octobre, notamment celle de la pièce « Bonne nuit capitaine » avec la chanson « C'est un petit paysage de Bretagne » et surtout « Le tableau des merveilles » en 1936. La création de ce spectacle lui donne l'occasion de rencontrer Jean-Louis Barrault, qui s'en souviendra en avril 1960.
Je crois qu'on a dû se connaître par Jacques Prévert.
Par Jacques Prévert.
C'est ça.
Ce studio était un véritable théâtre.
Oui.
Il y a eu une scène, enfin Jean-Louis va raconter, il y a eu des répétitions et c'est là que je me suis présenté à Jean-Louis.
Et c'était un grenier qui était au 11 rue des Grands Augustins et qui a été repris par Picasso, qui est l'atelier maintenant de Picasso. Et c'est là que nous avons passé une bonne partie de notre jeunesse avec Cosma. Et j'avais demandé à Jacques Prévert d'adapter le tableau des merveilles de Cervantes. Et pour ce tableau des merveilles, Cosma avait fait la musique. C'est comme ça que nous nous sommes connus à propos du travail. Et c'est là qu'il a fait cette musique pour le tableau des merveilles. Et c'est là qu'il a écrit une chanson qui s'appelle L'enfance. Et c'est là que nous avons fait chanter pour la première fois Mouloudji, et qui était, pour ainsi dire, notre fils adoptif, car nous l'avions recueilli chez nous. Et il avait à peu près 12 à 14 ans, quelque chose comme ça. Et c'est là qu'on a organisé, on faisait des improvisations, là fréquentait Robert Desnos, Gide, Artaud, le mercredi il y avait la réunion surréaliste avec Breton, Bataille, nous fêtions la mort de Louis XVI, enfin avec grande pompe, enfin le 21 janvier. Alors nous sommes devenus tout à fait amis, et à partir de ce moment-là, on mangeait chez Rami, quoi, rue Jacob, enfin Jacob. C'est notre époque Saint-Germain-des-Prés, quoi.
Comme elle est triste l'enfance, la terre s'arrête de tourner, et les oiseaux ne veulent plus chanter, et le soleil refuse de briller, tout le paysage est figé, la saison des pluies est finie. La saison des pluies recommence. Oh, comme elle est triste, l'enfance. La saison des pluies est finie. La saison des pluies recommence.
Bien des années après sa création, Mouloudji a enregistré cette complainte de l'enfance à plusieurs reprises pour en fixer la mémoire. Extraite du Tableau des Merveilles, ultime spectacle du groupe Octobre, joué durant les grèves du printemps 36 ainsi qu'à la Mutualité au mois de juin, juste avant sa dissolution, cette chanson signée Prévert et Cosma en annonce beaucoup d'autres, comme nous le verrons dans la prochaine émission. Vous pouvez retrouver l'essentiel du parcours de Joseph Cosma dans un petit livre de Françoise Mirand, « C'est une chanson », paru chez l'Harmattan dans la collection Cabaret. Je remercie Dorothée Gol à la préparation, Pierre Monteil à la technique, Lionel Quentin à la réalisation, Aude Vassan et Marine Decamp pour les archives de l'INA.
À réécouter sur francemusique.fr.